Alors, comme d'habitude, tous les ans, il y a un peu de bouchon qui revient jusqu'ici, ça devient une habitude. Du coup, cette année, j'ai anticipé. On va faire un peu de présentation avant de commencer.
Le 12 octobre dernier, Joachim Lebrun, directeur adjoint de l'APES, l'association Acteurs pour une économie solidaire, ouvre la séance plénière des 3e rencontres régionales de l'achat public sur le thème « Informations prospectives et nouvelles opportunités d'affaires pour les entreprises ». Au menu, la présentation de grands projets tels que « Renaissance du bassin minier » ou « Le futur CHU de Lens ».
La première question, qui est acheteur dans cette salle?
Dans la grande salle de l'hôtel Arajois du département, outre des acheteurs, des fournisseurs, des prestataires, des partenaires, tous des professionnels de la commande publique, à tout le moins des connaisseurs. Pour autant, à la dernière question de Joachim Lebrun.
Est-ce que pour vous, levez la main si oui, la commande publique, les marchés publics, c'est facile?
Éclat de rire général.
Levez la main. Ah, personne. Ah, je pensais qu'il y aurait au moins quelques personnes, c'est-à-dire qu'on est au bon endroit.
Effectivement, aujourd'hui on est dans une configuration où c'est compliqué, la commande publique, autant pour les collectivités que pour les entreprises, d'autant plus pour les entreprises. Donc on se dit très régulièrement que la commande publique change, donc elle change, elle évolue, mais tout en évoluant, elle fait évoluer aussi les pratiques des acheteurs, et du coup ça rend encore plus compliqué l'approche des fournisseurs, des entreprises qui se sentent de plus en plus éloignées. Pas généraliser non plus, mais les entreprises qui ne se sont pas lancées sur la commande publique avant 2016, avec les dernières actualités et les changements liés à la réforme de la commande publique, sont encore plus éloignées aujourd'hui. Donc dès qu'on leur parle de dématérialisation, par exemple, elles sont totalement perdues, de factures électroniques dématérialisées encore plus perdues, et plus on avance sur les nouvelles possibilités offertes par le code, la nouvelle réglementation de la commande publique, plus elles se sentent éloignées.
Alors la commande publique, elle n'est pas facile visiblement déjà pour les spécialistes, elle l'est du coup moins encore pour le commun, pour les habitants, et pourtant il a été question lors de cette plénière de ce que la commande publique était un outil au service de l'habitant, d'un mot peut-être très simple, c'est quoi la commande publique, c'est quoi les achats responsables?
Alors pour faire simple, c'est tout ce qui permet à une collectivité de répondre à ses politiques publiques. Donc il faut des routes, il faut des établissements, et tout ça, ça s'achète. Et il y a un principe réglementaire qui est de passer des marchés publics. Donc les collectivités sollicitent le secteur privé, mais aussi potentiellement le secteur public, pour savoir qui a des ressources, qui a des compétences, qui a des solutions pour répondre aux besoins qui sont manifestés de la part des acheteurs publics. Et c'est à partir de là qu'on lance une sollicitation, une consultation au niveau du secteur privé, que se positionnent les entreprises les unes par rapport aux autres, et qu'entre en jeu la capacité de répondre à un marché public. Et là, c'est toujours assez difficile, en tout cas pour les petites entreprises. Ensuite, on sélectionne l'entreprise, et puis seulement à ce moment-là, l'entreprise peut répondre aux besoins de la collectivité. Donc il y a quand même un certain nombre de strates et d'étapes administratives avant d'entrer réellement dans le travail effectif, le cœur de métier de l'entreprise, quoi. Il faut s'y connaître en réponse en marché public avant de pouvoir faire son métier de plombier, de construction de route, etc., etc.
Alors pas facile, vous venez de le dire, pour les petites et moyennes entreprises, et pourtant c'est un peu la cible des commandes publiques et de l'impact économique possible des dites commandes publiques ici en région.
Oui, alors en tout cas dans les objectifs, on l'entend très régulièrement, les élus, les responsables de structures achat, se dire que ça doit contribuer au développement de l'emploi local, au développement des TPE et des PME, c'est un objectif constant, mais en réalité la part de la commande publique est très faible sur le chiffre d'affaires des petites entreprises en région. Elles sont très peu en capacité d'y répondre, et même si on met en place un certain nombre d'axes, notamment de la formation, il y a encore beaucoup à faire, notamment dans l'écriture et dans ce qu'on appelle l'allotissement des marchés, pour que ce soit enfin accessible pour les entreprises qu'on vise finalement derrière ces objectifs d'accès plus simple à la commande publique pour les TPE et les PME sur le territoire.
Puisqu'on est dans les freins que vous venez de citer, d'autres l'ont été aujourd'hui, notamment le délai de paiement.
Oui. Alors, délai de paiement, c'est une vraie problématique. Il faut savoir qu'il y a des entreprises aujourd'hui qui posent leur bilan, qui arrêtent leur activité à cause d'un délai de paiement. Qu'est-ce qu'on appelle le délai de paiement? C'est le nombre de jours que mettent les collectivités avant de payer une prestation qui a été réalisée par une entreprise.
Donc, il est de combien, pardonnez-moi?
Alors, en moyenne, on est plutôt aux alentours de 60 jours. Mais il y a des collectivités qui vont tarder à payer pour des raisons d'organisation, pour des raisons d'infrastructure, et qui vont... faire en sorte, pas volontairement, mais que l'entreprise soit obligée de trouver des solutions pour compenser ce trou dans la trésorerie. Ce qui, petit à petit, va amener des entreprises à se poser un certain nombre de questions entre est-ce qu'on paye les salaires, est-ce qu'on paye le matériel pour réaliser la prestation. Et donc, petit à petit, ça va les mettre en grande difficulté. Ce n'est pas quelque chose de volontaire de la part de la collectivité. Pour autant, c'est une problématique qui arrive très régulièrement, ou en tout cas assez régulièrement sur les marchés. Donc, des fois, ça pose pas de difficultés en soi parce que les entreprises ont de la trésorerie, et des fois ça pose de grosses difficultés. Et là, on met en place un certain nombre de mécanismes pour aider les entreprises. Donc on intervient dans une démarche où l'entreprise a répondu de manière volontaire à un marché, à devoir l'aider suite à cette réponse. Ce qui fait que petit à petit, on va lancer des opérations de médiation, on va essayer de voir comment on peut aider la collectivité à payer plus vite l'entreprise, on va essayer de voir comment l'entreprise peut, en attendant, s'occuper, soit trouver de nouveaux marchés pour compenser. Et voyez l'escalade que ça peut amener si une entreprise doit trouver un nouveau marché pour essayer de compenser un marché où on le paye un peu plus tard, l'escalade que ça peut amener, ce qui amène petit à petit les entreprises à dire mais finalement les collectivités sont mauvais payeurs et du coup on va plutôt travailler avec du privé qui paye en général plus vite et sur lequel il y a la possibilité d'avoir des ententes plus claires et plus établies, quoi. Donc les collectivités, je pense, sans vouloir généraliser, sont conscientes de cette difficulté-là et essayent de se réorganiser en interne de manière à ce que ça aille plus vite. C'est pas pour autant qu'aujourd'hui, elles réussissent à tenir les obligations légales. On l'a dit tout à l'heure en introduction, si toutes les collectivités réussissaient à tenir le délai légal, on débloquerait des millions et des millions pour les entreprises du territoire, quoi. Aujourd'hui, on n'en est pas à ce stade-là.
Autre frein évoqué ce matin lors de cette conférence plénière, le manque de clarté, le manque de lisibilité de la commande publique. Un frein qu'on va essayer d'exemplifier avec vous, Olivier Dana, de la Fédération française du bâtiment, vice-président également en région. La commande publique, pour vous, chef d'entreprise, j'ai oublié de le dire, la commande publique, pour vous, elle est pas claire, pas lisible, et en quoi ?
Alors, la commande publique, il y a deux sujets. Dans ma réponse, la première, l'entreprise importante, la grande entreprise, elle est habituée, elle est rompue à tout ça, elle connaît les mécanismes, mais elle y répond sans grande difficulté. La PME et la TPE n'a pas les structures internes pour répondre, pour comprendre, anticiper, aller chercher l'information. Ce qui fait que, pour un petit peu rebondir sur le sujet qui était l'un des sujets qui était abordé avant, nos marchés, enfin, les marchés publics, pour nous, se transforment en marchés privés. Je vais développer un petit peu. L'entreprise importante répondra aux marchés publics, qui sont en général quand même des marchés qui sont d'une importance réelle, hein, c'est plusieurs millions d'euros, répond, et ensuite cherche des sous-traitants. Et le sous-traitant, c'est ni plus ni moins qu'un acteur, une entreprise comme la mienne, ou comme l'une des 500 que je représente aujourd'hui, qui, elle, va répondre à un appel d'offres privé auprès de l'entreprise contractante. Donc, deux réponses, la grosse entreprise a accès au marché public, la petite est plutôt, elle, versée dans un marché secondaire qui est un marché privé.
On va essayer d'exemplifier plus encore ces questions complexes, techniques, de commande publique et d'achat responsable avec un exemple dont il a été question ce matin, la construction future du nouvel hôpital de Lens dans le cadre du groupement hospitalier de territoire, le GHT de l'Artois. C'est le projet phare du GHT. Dépôt du permis de construire, ce sera vraisemblablement au premier trimestre 2018 et ce pour 3 ans de travaux. Vous avez, Olivier Dana, tout à l'heure, après la présentation par le directeur des achats et des approvisionnements du GHT de l'Artois, vous avez pris la parole pour un petit coup de gueule. Expliquez-nous le pourquoi de votre coup de gueule. Il rejoint ce que vous nous disiez il y a un tout petit instant. Vous avez eu cette phrase qui n'est pas de vous, visiblement, mais c'est une citation. On va encore aller rattraper après les malfaçons des autres.
C'est une réalité. En tout cas, c'est ce que m'ont exprimé certains chefs d'entreprise face au courrier que j'aurais adressé en réponse à un entretien que j'avais eu dans le cadre de l'avant-projet. L'hôpital de Lens. L'hôpital de Lens est un projet emblématique, tout le monde l'a bien compris. C'est des milliers ou des millions d'heures de travail pour nos salariés. Et on ne peut pas aujourd'hui rester inactif face à un tel projet et se dire « il ne va rien se passer pour nous ». C'est impossible. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il est évident qu'une entreprise, une TPE de 10 ou 20 salariés, ne pourra pas répondre, par exemple, reprendre l'exemple tout à l'heure, poser les fenêtres dans un hôpital de cette taille, d'un tel projet, c'est impossible. Par contre, la constitution en amont d'équipes de menuisiers de différentes activités pour constituer une entreprise pour cet instant T, donc un groupement momentané, qui va démultiplier le nombre de salariés, elle sera en capacité de répondre au marché. Encore faut-il que ceci soit intégré au moment de l'appel d'offres et que l'allotissement ne se résume pas à deux lots, mais que chacun spécialiste de son métier puisse le faire. Puisque si vous passez en entreprise générale, bien évidemment que l'entreprise générale fera appel à un spécialiste, en l'occurrence un plaquiste, un menuisier, un plombier, et bien qu'il en fasse appel à un groupement de plaquistes, un groupement de menuisiers, un groupement, etc., etc., etc. Et là, ce sera du gagnant-gagnant pour le territoire et pour la réalisation de ce projet qui est emblématique et qui a des objectifs extrêmement précis, tant en termes de qualité de réalisation que de délai de réalisation.
En arrière-plan de votre intervention de ce matin, l'exemple du Louvre-Lens.
Ah, le Louvre-Lens a laissé de tels, beaucoup de stigmates chez nous, hein, puisque ce qui revient facilement, c'est 10% de la main-d'œuvre par les Français. J'en dirais pas plus. Et ça a laissé des stigmates extrêmement importants sur le territoire.
Pas grand-chose, effectivement, à ajouter aux chiffres que vous venez de donner. Votre silence était explicite. On l'a dit tout à l'heure, Joachim Lebrun, il y a un impact attendu en termes économiques pour le tissu local, malgré ce qui vient d'être dit. Mais il y a surtout aussi, avec la commande publique et les achats responsables, et c'est pour ça que la PES est derrière, il y a des impacts sociaux et des impacts écologiques.
Bien sûr. Ce qu'on voit de plus en plus derrière cette notion d'achat responsable, c'est qu'on fait entrer des dimensions qui, jusqu'à maintenant, n'avaient pas beaucoup de place dans un achat. On considérait un achat dans sa partie technique, dans sa partie servicielle. Et là, petit à petit, on y ajoute des dimensions. La place des travailleurs, qui peuvent être parfois porteurs de handicaps sociaux, qui sont en insertion par l'activité économique. Donc la place aussi des acteurs de l'économie sociale solidaire. Petit à petit, la nouvelle réforme, si petit à petit elle commence à plus être nouvelle, mais la nouvelle réglementation autour des marchés publics donne des possibilités d'amener des aspects des plus-values sociales et environnementales au marché en tant que tel. Et donc du coup de sortir uniquement de cette vision produit, technique, service, mais aussi qu'est-ce que ça apporte au territoire. Et donc d'un projet, d'un achat, on commence à ouvrir petit à petit sur les autres parties prenantes et les autres dimensions environnementales qui sont, elles, très liées au territoire. Quoi. Donc on peut petit à petit se dire, si je lance la construction d'un bâtiment, quel va être le nombre de personnes en insertion du territoire qui vont pouvoir retrouver un emploi ? Quelle va être la prise en compte des enjeux écologiques sur le territoire à travers la construction de ce bâtiment-là ? Si je suis sur la construction d'une route, comment je vais réduire ou prendre en compte la question des embouteillages ? Et petit à petit, on en arrive à ajouter des éléments qui vont servir une politique publique. On n'est pas uniquement sur de la technique, sur de l'équipement, mais bien la construction d'une politique publique. Et dans la construction d'une politique publique d'une collectivité, il y a forcément la question de l'environnement, il y a forcément la question des enjeux sociaux, et notamment des publics fragilisés sur le territoire qui doivent retrouver un emploi. Et la commande publique, ça peut être un excellent levier à utiliser pour les collectivités, mais aussi pour tout autre type d'acheteurs, qu'ils soient publics ou privés. Et je pense que les collectivités peuvent être une très bonne locomotive pour montrer l'exemple, pour inciter les entreprises, petites ou grosses, à prendre des personnes fragilisées, à faire attention aux enjeux environnementaux sur les territoires.
Les troisièmes rencontres régionales de l'achat public avec Joachim Lebrun, directeur adjoint de l'APES, et Olivier Dana, chef d'entreprise, président de la Fédération française du bâtiment Lens Artois et vice-président régional, un magazine proposé par Bruno Reguet, Radio PFM.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.